Bonjour à tous et bienvenue sur Startcast, une initiative du comité étudiant Polyentrepreneuriat à Polytechnique Montréal. Je suis Alexis, votre hôte aujourd'hui, et j'ai la chance d'être accompagné par Philippe Meuser, un étudiant à l'ETS et en ingénierie logicielle et un entrepreneur depuis bientôt 6 ans. Il a pris en charge sa première compagnie donc à 18 ans. Alors bonjour Philippe.
Salut, ça va bien?
Ça va bien et toi?
Yes sir, merci de l'invitation.
Ah, ça me fait plaisir. Alors présente-toi et présente ton parcours et ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat.
Ben oui, certain. En fait, j'ai fait cégep en sciences de la nature, puis j'ai décidé de me diriger en génie logiciel à l'ETS. Puis, au cégep, j'ai eu l'occasion, un ami à mon frère avait déjà une compagnie de lavage de vitre à Boucherville, puis il était rendu ailleurs dans la vie, donc il l'a vendu à mon bon ami et moi. Puis on a repris ça, je pense qu'on faisait 20 000 dans le temps, là, dans notre année. Puis là, depuis ce temps-là, on a 10x nos revenus. On est rendu avec 10 employés. Moi, je fais ça de mes étés, puis je suis à l'étude à l'hiver. Donc, j'ai fait ça. Puis aussi, pendant la COVID, je me suis lancé dans un autre avenue entrepreneuriale, si tu veux. Là, j'étais allé en immobilier. Fait que j'ai pas mal développé ça au cours des dernières années, les trois choses en parallèle. Puis,
OK, donc beaucoup de projets, mais parle-nous du premier projet. Donc, tu as pris en charge une compagnie à 18 ans, une compagnie de lavage de vitres.
Ouais.
Alors, tu travaillais déjà pour cette compagnie? Comment es-tu arrivé là?
J'ai travaillé un an pour eux. Dans le fond, on était trois dans le temps. On travaillait juste Simon, qui était mon partner, puis l'ancien propriétaire. Puis, il nous a un peu appris pendant cette année-là comment ça fonctionnait, la partie technique, là, d'actually laver les vitres, puis la partie un petit peu plus business. Puis, à partir de là, on est partis juste les deux l'année d'après. On a tout repris. Puis, c'est ça. On a grossi ça depuis ce temps-là avec du marketing, avec du bon service client, puis avec du bon bouche à l'oreille aussi. Là.
Est-ce que c'était ton but de grossir tout ça? Ou est-ce que c'était juste une job étudiante, mais qui était un peu différente parce que c'était quand même l'entrepreneuriat?
Ouais.
C'était quoi, toi, au début? Comment tu as commencé ça? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? À la place d'une autre job étudiante classique?
Ah, ben honnêtement, c'est parce que c'était payant. Ouais. Au début, on regardait ça, c'était vraiment payant. Puis c'est quand même vraiment nice comment ça fonctionne, cette industrie-là, parce que tu as une espèce de gros push, mettons, mois avril, mai, juin. Puis une fois que ce push-là est fini, tu as comme le mois de juillet, août, tranquille. Fait qu'on travaillait vraiment comme des dingues pendant 3 mois. Puis au plein cœur de l'été, on avait congé. Puis à l'automne, on travaillait un petit peu les week-ends. Fait que c'était hot d'être son propre boss pour ça. Puis pourquoi qu'on a grossi ça? Ben parce que ça roulait bien. Puis c'est juste, on dirait que je l'ai dans moi. J'adore ça, faire grossir une business. Puis quand tu t'appliques, puis tu sais, t'as même pas de temps à besoin de vouloir grossir, juste donner un bon service, ça va directement grossir parce que les clients sont fidèles, puis ils vont te recommander, tu sais.
OK, ouais, donc à 18 ans, tu t'es dit, genre, ouais, let's go. Je vais prendre en charge cette compagnie, je vais le 10x, je vais faire tout ça, je vais réaliser tout ça. T'avais déjà en tête cette vision-là?
Je sais pas si je l'avais au début, pour de vrai. C'est juste, je voyais mes amis au salaire minimum au métro, mettons, en balleur. Puis, il n'y a rien de mal contre ça. C'est juste que moi, je passais mes étés dehors avec mes amis à faire un job quand même le fun, qui, oui, était mentalement pas mal plus drainant, mais qui, au bout de la ligne, était plus plaisant. Puis, ça l'a fait en sorte que, on dirait qu'intérieurement, je voulais tout le temps être au top. T'sais. Fait que c'est ça qui a fait qu'on a 10x, notre compagnie. C'était plus. C'était pas tant un objectif initialement, mais ça a été un résultat de notre travail au cours des dernières années.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même une belle histoire. T'as pris une opportunité qui s'est présentée à toi. Tu savais que ça allait être du travail, mais tu l'as quand même, genre.
Ouais.
Bah, tu l'as fait, t'as bien fait ça. Ben.
Il y a quand même eu un peu de chance là-dedans. Si tu veux, là, au début, je serais jamais allé vers le lavage de vitre. Je connaissais pas ça du tout.
Mm-hmm.
Mais une fois qu'on a pris cette chance-là, comme tu dis, là, on s'est appliqué et ça a fonctionné.
Ben, parle-moi de ça, de ton parcours sur les derniers 6 ans et. Comment t'en es arrivé là où t'es aujourd'hui? Là, vous avez commencé à 3 employés, t'as dit. Donc, parle-moi du parcours.
Au début, c'était Simon, mon partner, qui était mon partner, puis un de nos amis. On était les trois. On travaillait comme des fous. Là. Au début, on n'était pas sains. Ben, moi, vraiment, j'étais pas sain. Ça prenait tout mon mental. Je voulais trop être au top. Puis, on a fait des 30 jours de suite de travail pendant le rush. Puis, on dirait que j'ai évolué à partir de ça. Là, on a pris un peu de recul, on s'est engagé plus d'employés, on a pris différents chefs d'équipe, si tu veux, qui avaient chacun leurs équipes. Puis, mettons, là, depuis 2 ans, je travaille presque plus sur le terrain, je suis pas mal plus en termes administratifs. On fait du lundi au vendredi, si tu veux un peu du 9 à 5, on a engagé des agents administratifs qui nous aident dans le setup de notre saison. Fait qu'on dirait que j'ai évolué un peu, j'ai changé un peu ma vision aussi de la chose, dans le sens que on voulait tout garder nos revenus, on voulait pas acheter des chandails parce que ça coûtait trop cher, là, tu sais. Puis maintenant, on est rendu que on se rend compte qu'avoir un meilleur équilibre nous rend plus performants dans les tâches qu'on est bon. Donc, les parties que j'aime le moins, qui est par exemple organiser un horaire, ben ça, on va payer quelqu'un pour le faire, mais la stratégie, que ça, je considère que je suis quand même assez bon là-dedans, ça, on le garde pour nous, tu sais.
Ouais, OK. Et tu parles de quand même des connaissances de business et des connaissances techniques en finance que pas tout le monde a, donc où est-ce que tu as eu cette information? Genre, t'es pas allé à l'école de business. Comment est-ce que tu as appris à run a business complètement par toi-même?
C'est une bonne question. Moi, j'ai vraiment lu beaucoup.
OK, wow.
Ouais, YouTube, il y a tout sur YouTube. Ouais. Fait qu'au début, j'étais un peu dans le néant. On a vraiment appris, on a fait des erreurs. Comme la première année, parce que quand tu fais plus que 30 000 par année, il faut que tu charges les taxes. Mais nous, en tout cas, on avait mal lu, puis on pensait que c'était 30 000 par trimestre. Fait qu'on a fini notre année, puis il a fallu payer les taxes sur tous nos clients. Fait que c'est quand même 15% de toute ton année. Fait que, ouais. Quand t'as 19 ans, je pense qu'on avait, ça fait quand même mal. Tu sais, ça, c'est des erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait été mieux renseigné au début, mais qu'on a appris sur le tas. Puis en même temps, mettons, quand j'avais 21 ans, je pense, on en parlera après, mais j'ai des formations immobilières, puis il y a plein de cours de fiscalité, puis de droit dans ces formations-là. Puis c'est tout pour la business en général, fait que c'était comme tout un peu intercroisé. Fait que j'ai comme pris ces connaissances-là, puis je les ai appliquées aussi là, à la compagnie de nettoyage de vide.
Ouais, j'ai quand même l'impression que tu as la fibre entrepreneuriale, là, que c'est quand même pas mal inné. Et juste,
j'aime vraiment ça, tu sais, ça me dérange pas mettre du temps là-dessus. Lire, écouter des vidéos YouTube, c'est pas une tâche, tu sais.
Ouais, ça c'est beau, c'est rare et c'est ton niche, quoi, c'est ça.
Ouais.
Et tu parlais des erreurs comme ça, est-ce que tu as d'autres choses comme ça, d'autres anecdotes ou d'autres choses que tu aurais fait juste différemment en looking back sur ta compagnie?
Ouais, un peu. Ça, c'est notre plus grosse erreur financière, si tu veux. Mais aussi au niveau social, comme je te disais, c'était pas vraiment healthy, là. J'étais avec mon meilleur chum, puis on renaissait ensemble, mais après 30 jours à travailler sans arrêt, juste les deux à penser qu'à ça, à passer tout notre temps ensemble, c'est juste pas une bonne façon de fonctionner quand j'y repense. Tu sais, à la fin, il y avait des tensions, c'était un peu plus lourd, c'était moins plaisant. Par moments, tu sais, on s'est parlé, là, finalement, tout est correct, mais c'est juste quelque chose que je pense on aurait pu éviter, puis plus s'en parler. Tu sais, même si on s'en parle, je veux dire, c'est juste pas une bonne façon de procéder, de travailler autant, puis avec les mêmes personnes. Fait que je pense qu'il aurait fallu qu'on prenne un pas de recul, qu'on prenne des journées de congé, puis plus personnellement, je pense que faut encore que j'apprenne à mettre mon cerveau plus à off quand j'étais en vacances.
Ouais, c'est ça.
Je pense, comme tout entrepreneur, je pense tout le temps à ça. Fait que c'est quelque chose à faire attention.
C'est un outil que beaucoup d'entrepreneurs, dont beaucoup d'entrepreneurs parlent, apprendre à you know, being bored is the best tool for creativity,
ouais.
Ce qu'on entend souvent.
T'as raison.
Donc vraiment apprendre à shut off son cerveau pour avoir des meilleures idées, être plus efficace quand ton cerveau est on était locked in.
Tu peux pas être 100% tout le temps, tu sais. Puis au courant des années, j'ai un peu mis les outils en place, dans le sens qu'au début, tu sais, notre téléphone de compagnie, c'était nos cells perso. Là, on s'est acheté, tu sais, on s'est mis des lignes différentes, que quand c'est pas nos heures d'ouverture, on répond pas, tu sais, c'est... Avant, ça serait un samedi à 6h, j'aurais répondu au téléphone pour avoir le client. Maintenant, j'ai pris la décision que ce client-là, si on le perd parce qu'on n'a pas répondu un samedi à 6h, ben too bad. C'est un équilibre après tout.
L'équilibre. Ouais. C'est tout. J'aimerais que tu me parles un peu là, vous en êtes où à la compagnie, genre dans les dernières quelques années, là, vous en êtes où? Combien d'employés? C'est quoi vos chiffres d'affaires? Genre, si tu veux en parler.
Ben oui, certainement. Il y a deux étés. C'était le dernier été avec mon partenaire Simon, avec qui j'avais tout construit ça au début. Puis un de nos employés, qui est devenu un de mes meilleurs chums, a racheté ses parts. Fait que là, moi, j'aurais pu racheter les parts de Simon et continuer ça tout seul, mais premièrement, j'aurais pas eu la motivation. Puis c'est vraiment, vraiment plus plaisant avec un partenaire. Tu peux brainstorm, des affaires comme ça. Fait que là, lui a racheté ses parts. L'été passé, on était rendu à presque 200 000 de chiffre d'affaires. 12 employés qu'on était au total, 4 équipes qui roulaient en même temps. Puis nous, notre vision, c'est vraiment que, oui, nos employés, la plupart, j'aime vraiment pas ce terme-là, c'est ceux qui travaillent avec nous, c'est plus nos amis, si tu veux. Là. Ben, en fait, c'est tous nos amis, c'est rendu tous nos amis, mais on veut vraiment créer une belle ambiance. T'sais, on paye les 5 à 7 à toutes les semaines, on fait un chalet d'équipe à la fin. On veut que ça soit un bel été pour eux aussi. Fait que ça, c'est un peu notre vision qui nous a permis de garder notre staff même pendant la grosse pénurie de main-d'œuvre qu'il y avait. Là. C'était pire il y a 2 ans, c'était vraiment la pagaille. Là. Ça nous a permis un peu de les garder. Puis là, avec Fred, qui est mon partner, on grossissait encore cet été. On pensait vendre à la fin de l'année, mais on va peut-être faire une année supplémentaire. Les deux, c'est notre dernière année de bac. Fait que l'année prochaine, on ferait notre dernier été, puis on vendrait probablement après ça.
OK, ouais. Ben, tu dis beaucoup de bien de tes employés. Et où est-ce que tu les trouves? Genre, comment t'as fait cette recherche d'employés?
On a essayé les posts Facebook, on a essayé de faire des ads pour ça, mais c'est vraiment le mieux qui fonctionne, ça a été des bouche à oreille, amis d'amis. Ouais. Tu sais, vu que c'est chill, vu que c'est relax comme job, puis c'est bien payé quand même, puis que l'ambiance est cool, c'est facile à tirer des gens. Ouais. Ça a été comme ça.
Et j'ai l'impression que t'as quand même une méthode de gestion qui est quand même claire dans ta tête et qui a l'air attirante pour beaucoup d'employés. Donc, décris-moi cette approche à la gestion de un peu ce côté familial un peu à ton entreprise.
Ouais, c'est vrai parce que c'est un gros point pareil. La plupart des compagnies, mettons, de lavage de vide commencent à 7h, 8h le matin. Nous, c'est 9h, le temps que notre monde arrive. On leur paye leur heure de dîner. Ils travaillent avec leurs amis. Ils peuvent jouer au basket le midi, jouer à Switch, on s'en fout. Là. T'sais, nous, tant qu'au bout de la journée, la job est faite et elle est bien faite, c'est vraiment correct. Ils font même du pourboire aussi. On leur paye la brosse à toutes les semaines. T'sais. Fait que ça fait un peu une ambiance festive. Sont quand même, ben, en tout cas, j'espère, sont heureux à travailler avec nous. On travaille dehors. Il fait beau, il fait chaud. On met de la musique dans l'auto. On essaie de garder ça vraiment chill entre amis. Puis je pense que ça a été la meilleure technique et tactique là, qui a fait qu'on a réussi à les garder avec nous.
Ouais, c'est sûr que ça a contribué au succès de ton entreprise.
Ah, sans eux, on n'est rien. Là, on peut pas faire tous ces clients-là. Là.
Ouais, c'est une immense priorité qui est trop souvent négligée, je pense, dans les entreprises, surtout dans les startups. Like, quand tu es focus growth, et le seul chiffre que tu regardes, c'est le pourcentage de revenus à la fin de l'année, c'est une belle approche et c'est rafraîchissant d'entendre ça d'un jeune entrepreneur.
Il y a vraiment un point là-dessus parce que si tu es trop chill, la qualité de ton service sera pas là. Fait qu'il y a quand même un entre-deux à y avoir. Mais nous, on a été vraiment chanceux. Là. Tout le monde qui a travaillé avec nous, ils ont tous une bonne tête ses épaules. Puis ils sont capables de faire cette différence-là. Fait que je voulais juste mentionner ça. Que
ouais,
on a été chanceux pour ça. Là.
Et comment tu t'assures qu'ils font leur job bien en étant aussi chill? Comment tu t'assures qu'il y ait quand même cette rigueur et cette efficacité? Genre, où tu trouves l'entre-deux? Où se trouve cet entre-deux-là?
Aussi, je dirais, nos chefs d'équipe qu'on avait, ils étaient tous super sharp. On avait vraiment une confiance en eux. Fait que là, c'est quand même une bonne partie. C'est eux qui sont sur le terrain. Mais ça arrive là, des fois, des clients qui vont nous rappeler pour qu'on aille faire des corrections. Puis, nous, c'est satisfaction garantie. Fait qu'on y va, on va aller corriger ça, c'est sûr. Donc, on se rend compte aussi, si c'est tout le temps la même équipe, ça nous donne un peu des idées. Ou si on demande des reviews à nos clients, fait que ça nous donne un peu des... Ça nous donne un feedback là, quand même assez clair là-dessus. Puis on l'a vu dans les dernières années, on n'aurait pas continué à grossir comme ça si on était trop chill. Fait que je pense qu'on a trouvé un bel entre-deux.
Ouais. J'ai l'impression. Est-ce que tu as d'autres anecdotes qui expliquent ton succès? Comme ça, le succès de cette entreprise-là, comment expliquerais-tu que tu as réussi à la Tenex en 6 ans? Là? C'est quoi des autres stratégies que tu as pris ou que tu as mis en œuvre?
Ben, mettons, dans la dernière année, on a doublé l'année passée presque notre chiffre d'affaires. Wow. Puis, il y avait une subvention du gouvernement qui s'appelait PECAN, puis c'était pour promouvoir la transition technologique des compagnies. Nous, on l'a utilisé pour de la publicité numérique. C'était la première fois qu'on en faisait. On avait fait toutes sortes d'autres sortes de publicités, mais la publicité numérique. Puis, c'est la première fois qu'on investissait autant dans ça. Puis, je pense que ça l'a vraiment aidé parce qu'on a vu, on n'a jamais fait autant de soumissions l'année passée. Fait que ça a été une belle voie pour pouvoir grossir notre compagnie. Puis cette année, on le refait encore. Alors, je préfère te donner plus de nouvelles à la fin de l'été si c'était vraiment ça qui a fait que l'année passée, on a grossi. Mais je pense que ça, c'est une belle stratégie pour le service, là, pour les compagnies de service. La publicité, les influenceurs, les trucs comme ça.
OK, ouais. Ben, est-ce que tu as d'autres modes de publicité que t'as...
On a essayé la publicité postale.
OK.
Ça a été un échec... total, mais on n'avait pas aussi le guts d'investir beaucoup. Fait que peut-être que si on avait investi comme du monde, ça aurait fonctionné. Ça aurait mieux fonctionné, mais aussi, ça, c'est notre principal mode de publicité. En fait, on laisse des petites pancartes sur les terrains des gens quand on passe. Tu sais, des fois, on voit ça, la toiture faite par...
ouais, exactement.
Whatever. On fait la même chose. Nous, on laisse des pancartes pendant une semaine. Fait que quand tu te promènes sur une rue puis tu vois qu'il y a 6-7 maisons qui ont cette pancarte-là, à un moment donné, tu dis que le service doit être bon. Fait que ça a été une de nos techniques, puis encore une de nos techniques qui est assez payante.
Donc, c'est surtout le bouche à oreille et juste... c'est quand même... c'est old-fashioned, je dirais, un peu comme...
Facebook aussi, le classique groupe Facebook.
OK.
De ville, tu sais, Spotted Saint-Bruno, tu sais, des trucs comme ça. Là. Souvent, on est cité là-dedans.
OK, vous êtes employé sur la rive sud, surtout?
Ouais, on est sur la rive basée à Boucherville. Je dirais que c'est quasiment 75% de notre clientèle. Puis, on fait pas mal toutes les villes aux alentours. On se déplace plus loin pour des contrats, mettons, plus grands. Si tu veux, si on peut passer une journée au complète, on va aller jusqu'à Granby, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut que ça vaille la peine parce que faire déplacer deux employés pendant une heure, c'est faut que ça, au bout de la ligne, ça va être les clients qui vont le payer. Fait.
OK. Et là, Live, t'en es où? Donc, tu veux peut-être la vente, tu disais pas la vente cette année, peut-être étendre une année de plus. Donc,
ouais, on pensait...
explique-moi cette mentalité-là.
On pensait peut-être la vendre là parce que ça fait 6 ans, je commence à être un peu au bout des idées puis de la motivation. Je dis pas que je le suis plus. Mais aussi, je finis mon bac l'année prochaine. Je suis comme rendu ailleurs dans la vie. Puis je vais me diriger un petit peu plus vers mes entreprises immobilières que de nettoyage de vitres. Mais on est comme en réflexion, Fred, mon partner et moi, si on vend à la fin de cette année ou si on vend à la fin de l'année prochaine. Il y a un marché pour acheter ça. Alors, on regarde nos opportunités. Là.
OK, ouais, donc... t'as quand même... C'est quand même une belle histoire d'avoir pris une entreprise qui commençait quasiment à zéro, qui maintenant a du potentiel pour te ramener un revenu et contribuer pour tes autres projets. Donc, le net que cette compagnie t'a apporté est quand même pas mal dans le positif.
Ah ouais, définitivement. C'est une grosse charge mentale, presque à l'année, parce que même en hiver, on prépare ça. Mais il y a des récompenses financières, mettons.
Ouais. Est-ce que tu as des regrets avec tout ce parcours?
Non. Pour de vrai, peut-être juste la partie que je te disais... que je mettais un peu trop de mon mental là, il y a une couple d'années, mais maintenant, je pense que là, on a vraiment atteint un bel équilibre.
Ouais.
Ouais, vraiment.
Et on entend souvent que quand tu es jeune, à cet âge-là, c'est le meilleur moment pour te lancer en affaires. Entrepreneuriat, c'est comme c'est un diplôme sans diplôme. Tu as des connaissances que tu aurais eu nulle part autre, que tu apprends sur toi-même, tu apprends sur tellement de choses.
Tellement, parce que c'est ça. Oui, il y a les connaissances... mettons, fiscal ou légal ou whatever, mais t'as aussi sur gestion avec tes équipes.
Ouais.
Gérer des amis, tu sais, c'est pas toujours évident. Puis t'as, comme tu dis, sur toi-même, qui est des réflexions que maintenant je suis capable d'avoir que j'avais pas il y a 2 ans, puis que je préfère avoir maintenant quand que j'ai encore peu de responsabilités, mettons, que j'apprenne toutes ces affaires-là quand je suis, mettons, un jeune papa, puis là, les répercussions sont sur plusieurs personnes que pas juste sur moi. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir d'être laid back comme ça déjà à 24 ans puis pas à 40.
Ça a tellement de valeur, ça, d'avoir ce recul-là. Ouais, non, complètement.
Puis ça change un peu aussi mes perspectives de carrière. Je pense pas que je vais être jamais capable de travailler pour quelqu'un.
OK.
Quand t'as été ton propre boss pendant 6 ans,
t'as goûté à
aller travailler à l'heure après, c'est
impossible.
C'est une piqûre. Bad.
Ouais, complètement. Ouais, bon, on peut passer à ma prochaine question, ce serait que tu me parles de l'importance du diplôme d'ingénieur, parce qu'on rappelle aux auditeurs que tu es en train de faire ton diplôme, ton bac en ingénierie à l'ETS, qui n'a rien à voir avec le lavage de vitres.
Non.
Donc, parle-moi de l'utilité de ce diplôme-là et pourquoi tu as continué dans ton bac, alors que tu aurais pu quitter et y aller full-time dans ton business?
Je l'ai continué pour plusieurs raisons. En fait, j'ai comme un peu choisi que j'allais pas travailler vraiment en tant qu'ingénieur, mettons, dans une compagnie, mettons, pour, disons, Bombardier. J'ai comme choisi que j'allais pas faire ce type d'avenue-là il y a comme 1 an. J'étais déjà à presque aux 3/4 de mon... Je suis rendu aux 3/4 de mon bac. Là, j'étais comme, est-ce que je le finis? Puis, je pense que les qualités de l'ingénieur, c'est des qualités d'entrepreneur en général.
Ah ouais?
C'est des... En tout cas, pas mal tout le monde que j'ai rencontré à l'école, c'est du monde qui... En gros, ce qu'on apprend en génie, c'est de régler des problèmes, de trouver des solutions à des problèmes. Puis l'entrepreneuriat, c'est juste ça, des problèmes. C'est comme ça que tu grossis, c'est que tu as une série de problèmes, tu les résous un par un, puis au bout de la ligne, t'as ta récompense, tu sais. Fait que le génie, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Puis, pourquoi je le termine, mon bac, parce que j'ai déjà un peu appris ces connaissances-là, c'est parce que en immobilier, avoir un titre d'ingénieur, c'est, ben, pas juste en immobilier, en entrepreneur, tu sais, en entrepreneuriat en général, d'avoir le titre d'ingénieur, d'avoir le ring, c'est toujours une belle marque de confiance et de crédibilité.
C'est sûr, pas face à tes clients.
Mm-hmm, totalement. Puis c'est aussi, si jamais je get bored de l'entrepreneuriat ou ça me stresse trop un jour, que j'ai toujours la possibilité d'avoir ces connaissances-là puis cette titre-là. Tu sais.
Ben, c'est ça qu'on dit de l'ingénierie, c'est le bac qui t'ouvre le plus de portes.
Tellement.
Là. Et je pense que c'est trop sous-estimé les liens qu'il y a entre l'entrepreneuriat et l'ingénierie.
Tellement. Puis c'est fou en immobilier, les meilleurs investisseurs immobiliers que j'ai rencontrés étaient ingénieurs de formation.
Oh wow! Ouais. Ah ben c'est intéressant.
Je sais pas si tu connais The Dave Ramsey Show.
Ça me dit quelque chose.
Bref, c'est un show financier aux États-Unis. Puis ils ont fait une étude sur 10 000 millionnaires. Puis la profession qui a le plus de millionnaires, c'est ingénieur.
Wow!
Fait que le lien, c'est juste parce qu'on est cartésien, on calcule, on a les pieds à terre. Fait que c'est ça.
Complètement. Je dirais que c'est une des. Ton diplôme d'ingénierie, ta formation d'ingénieur, c'est une des raisons pour laquelle tu as réussi à résoudre tous ces problèmes de ton entreprise.
Ouais.
Même si ça n'a rien à voir, le lavage de vide qui n'a rien à voir avec ton bac et qui n'est pas. Ben, c'est ça. C'est, ça n'a pas besoin d'être ta passion, mais juste ta capacité résoudre des problèmes. T'a permis d'avoir toutes ces connaissances qui sont applicables à plein d'autres choses. En droit, en.
Tellement.
Ouais, en business.
Puis tu sais, je suis en génie logiciel, puis le. L'une des avenues entrepreneuriales qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat technologique. Donc, c'est un peu relié aussi. C'est pour ça que j'avais choisi ce génie-là.
OK, ouais. Bah parle-moi de ta décision. Pourquoi tu as commencé ton bac? Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu avais commencé ton bac? C'était quoi ton idée au début?
J'étais au cégep, puis je savais pas trop ce que je voulais faire. Mon frère est ingénieur, mon père est ingénieur. Puis, ben, je veux dire... C'est vraiment des professions que je respecte. Puis moi, j'aimais beaucoup le technique dans le temps, plus que maintenant. Puis j'ai aussi un esprit cartésien, fait que ça avait juste du sens d'aller en génie. Pourquoi j'ai pris le logiciel? Bonne question. Je pense que c'est vraiment pour l'aspect technologique. Parce que je savais déjà un peu que l'entrepreneuriat m'intéressait. Puis je pense que électrique... en fait, tous les génies, là, mais électrique, logiciel, TI, nous qu'on a à l'ETS, c'est toutes des bonnes avenues pour le futur, mettons, en développement, affaires technologiques.
OK, ouais. Ben, c'est très intéressant. Je pense qu'on peut passer à ta prochaine entreprise en business. Donc, raconte-moi ça. Où t'es venue l'idée et pourquoi est-ce que t'as pris cette avenue immobilière? Et ben voilà, vas-y.
Ben, tout a commencé pendant la COVID, évidemment. J'étais bored, puis j'écoutais beaucoup trop YouTube. Et je suis tombé sur plusieurs YouTubeurs et vidéos sur l'immobilier. Puis je dirais qu'ils étaient accrochés. J'ai vraiment, vraiment aimé le principe. Tu sais, c'est des principes mathématiques initialement. Oui, c'est sûr que quand tu deviens propriétaire, tu as tous les locataires, les clients qui sont là, qui sont affectés par tes décisions. Mais avant même d'acheter quoi que ce soit, tout est mathématique. Si tu regardes ça comme un investissement. Donc... Moi, j'ai regardé des vidéos YouTube, je voyais des entrepreneurs qui achetaient des blocs, qui refinançaient, qui faisaient beaucoup d'argent en faisant ça. Fait que j'ai été un peu attiré là-dessus, puis je me suis dirigé vers... J'ai commencé par faire une formation, parce que oui, les formations immobilières, ça coûte cher, mais une erreur en immobilier peut te coûter des dizaines de milliers de dollars. Fait que j'ai investi là-dedans, j'ai suivi des formations pendant la COVID, puis j'ai décidé de passer à l'action et d'acheter mon premier bloc en 2021. C'est ça.
Wow, OK. Donc, en 2021, son premier bloc, comment tu l'as trouvé? Pourquoi celui-là?
C'est vraiment moi, je trouve quand même une belle histoire, là, parce que ça fait... En 2021, il y avait la... Pour ceux qui se rappellent, dans le marché immobilier, là, il y avait la surenchère, c'était effrayant. Il y avait des blocs avec des 40 offres dessus. Là. C'était vraiment, vraiment dégueu. Puis moi, malgré tout, j'ai réussi à trouver un deal sur Centris, fait que c'est affiché par un courtier qui était en Estrie à Valcourt, que ça s'appelle, la ville. Et j'ai vraiment eu une belle vente, dans le sens que les propriétaires, je les adore, les anciens propriétaires, je les adore. Eux, c'était leur retraite, les blocs étaient payés, c'était leur retraite, ils s'en occupaient eux-mêmes depuis 30 ans, je pense. Puis j'ai réussi à avoir un deal avec eux. C'était 2-6 logements. Donc pour eux, fiscalement, c'était vraiment plus intéressant de vendre sur 2 ans. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est j'en ai acheté un en décembre 2021, un en janvier 2022. Donc pour eux, c'était super gagnant. Pour moi, ça ne changeait rien. Puis eux, ils m'ont financé les blocs. Fait qu'ils étaient ma banque.
Wow.
Fait que pour eux, c'était un placement. Pour moi, je pouvais avoir accès à mon nouveau à un bloc. J'ai pu apprendre à le gérer parce que je le gérais moi-même au début jusqu'à temps que j'engage une compagnie de gestion pour moi. Et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup avec ces blocs-là. Puis ce que j'ai fait, c'était une conversion du système de chauffage. Donc, c'est un des blocs qui était chauffé au mazout, ultra polluant. Puis je pense que ça coûtait 12 000 $ de mazout par année. Fait que moi, j'ai changé ça pour un système électrique. Donc, ça a été comme... J'ai amélioré les blocs. J'ai pas mis personne dehors. J'avais une belle relation avec le vendeur. C'était comme tout gagnant. Là. Ça a vraiment été une belle expérience. J'ai détient encore. Puis, je pense que je vais les détenir pour longtemps parce que c'est des très beaux, très belles assets. Puis, les gens qui vivent là, c'est des excellents locataires. Donc, j'ai eu aucun problème avec ces blocs-là.
OK. Et ce changement de mazout à électricité, ça t'a permis de charger plus du coup pour l'appartement? C'est un investissement du coup?
C'est un investissement parce qu'au lieu de me coûter 12 000 de mazout par année, ça me coûtait 600 d'électricité, okay, mettons. Ouais. Puis aussi, vu qu'ils ont pris la charge, mes locataires ont pris la charge de leur chauffage. Fait que j'ai pas augmenté le loyer du tout, mais ils ont pris la charge de l'électricité sur leur facture. La charge du chauffage sur leur facture d'électricité, pardon. Mais en échange de cette augmentation-là, moi, je leur ai offert le Wi-Fi gratuitement. Donc, moi, j'ai fait rentrer une ligne commerciale, puis je leur ai offert le Wi-Fi dans chacun des appartements. Donc, eux, ils n'avaient plus à payer ce Wi-Fi-là, mais ils avaient à payer leur chauffage. Donc, ça, c'est revenu équivalent dans leur portefeuille à eux au bout de la ligne. Puis, pour moi, j'ai économisé presque 11 000 $ de mazout par année. Fait que ça a été une optimisation qu'on appelle dans le jargon. Là. C'était exactement ça. Puis ce que j'aime de cette optimisation-là, c'est que c'est gagnant pour tout le monde, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs avec des optimisations qu'il y en a qui mettent des locataires dehors et tout ça, qui n'est pas éthique du tout. Donc ça, c'est une belle façon de procéder, je trouvais. Tu améliores le parc locatif, plus tu réduis la pollution et tout le monde est gagnant.
Ouais, donc il y a quand même de la gestion et un peu de négociation complètement. Ouais.
Totalement. C'est la grosse lanière, la guerre, c'est la négociation.
Complètement. Mm. Ouais. Et tu parlais de ça, de l'immobilier éthique, parce que c'est sûr que les landlords en ce moment, surtout au Québec, ils ont quand même une bad rep.
Ah, totalement, là, totalement. Et avec raison, à cause. C'est plate parce que c'est un 5% qui fait que le 100% est jugé. Ouais, est jugé. Tu sais, maintenant, tu peux plus. C'est poche parce que tu peux plus vraiment rénover un logement sans être considéré être un rénovicteur, tu sais.
Rénovicteur, c'est quoi ce terme?
C'est quelqu'un qui fait des rénovations pour kicker out les locataires pour pouvoir augmenter le prix.
Et ça, mais, c'est un problème au Québec.
Ah, il y en a plein qui font ça, puis ça, c'est totalement... C'est vraiment pas correct. Mais ça reste que le parc locatif, je pense que 80% a été construit avant 1980. Fait que c'est un... Je pense, là, je suis plus sûr des chiffres exacts, mais ça fait que ça fait 40, 45 ans qu'il a le parc locatif. Là. Fait
le parc locatif qui est...
Qui est tout, les immeubles en général.
OK.
Fait que les appartements ont besoin de réno en ce moment. C'est vieillissant, t'as des appartements pas salubres, mais t'as beaucoup de locataires qui ont peur de faire de la rénovation, justement à cause de cette bad rep. Donc, c'est comme... On est en un drôle de spot en ce moment dans l'immobilier au Québec. Là. Et le manque de logement. Là. Évidemment, on peut parler de la crise du logement pendant des années. Là.
Complètement, ouais. Bah, dis-nous ton point de vue là-dessus, là, bah, sur la crise du logement, mais aussi sur la bad rep des landlords. J'ai oublié le mot en français.
Des propriétaires.
Propriétaires.
Ouais. Ben, pour commencer avec la crise du logement, je vais citer des conférenciers que j'ai entendus, mais je suis très d'accord avec eux. On est à peine au début. Wow. On voit à peine le point de l'iceberg. Le monde pense qu'on est en plein milieu. Non, ça commence. La SCHL, qui est la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui est comme gouvernementale, puis qui ont les statistiques sur le logement au Québec, considère que juste au Québec, d'ici 2030, fait que dans 6 ans, il va manquer 800 000 nouveaux logements. Il faudrait construire 800 000 nouveaux logements de plus que ce qu'on construit actuellement.
Pour accommoder...
Pour atteindre une certaine forme d'abordabilité.
Wow!
800 000!
Et on n'est même pas proche.
Non, ben, en fait, il manque 1,2 million d'ici 2030, mais on en construit quand même un peu.
Ouais.
Mettons, dans les meilleures années de construction au Québec, je pense qu'on a atteint le 40 000 logements de construction, de construits par année. 40 000 par année, puis il en manque 800 000 d'ici 6 ans. Ça, c'est la meilleure année, là. En 2023, ça a été la plus faible depuis les 10 dernières années de mise en chantier.
On n'est pas dans un bon spot.
Ah non, pas en tout.
Et comment t'expliques ça?
Plusieurs points. Il y a eu plusieurs... Ben, les politiques d'immigration très favorables. Donc, il y a eu une arrivée massive d'immigrants qui a fait qu'il y a... Puis une très faible mise en marché de nouveaux logements. Donc, c'était plein de nouveaux citoyens, puis pas beaucoup de logements qui se construisent, mais direct un déséquilibre qui se crée. Puis il n'y a pas eu de politique favorable à la construction de nouveaux logements non plus. Fait que c'est tous des facteurs qui sont très négatifs pour la crise du logement.
Ouais. Et toi, dans tout ça, en tant que propriétaire, ben, tu fais quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu entreprends pour contrer ça? Comment est-ce que ça t'affecte?
Ben, les propriétaires immobiliers sont contents, dans le fond, là. C'est de l'offre et de la demande directe. Ouais. C'est le principe de base financier, le plus de base. Il manque d'offres, puis il y a plus de demandes. Fait que les prix montent.
C'est sûr.
Pour les locataires, c'est les locataires, les perdants. C'est sûr. Direct. Puis moi, c'est un avenue qui m'intéresse beaucoup, c'est la construction neuve, le développement de terrain, puis la construction neuve. Justement parce que tu n'as pas à dealer avec du monde. C'est leur chez eux, là, tu ne veux pas les mettre dehors. Fait qu'en construisant de nouveaux logements, tu aides un peu la crise du logement et tu réussis à faire des bons coûts financiers sans avoir des impacts sur la vie de plein de gens. Là.
Donc, il y a un moyen de faire une pierre deux coups, de contribuer à résoudre ce problème de logement en faisant de l'argent. Et toi, tu dis que tu préfères même cette méthode. Donc,
la construction neuve, c'est vraiment, pour moi, la meilleure méthode.
OK, bah, comment tu vas faire ça? Est-ce que tu as un plan?
Justement, je suis en train de suivre une formation... Je l'ai nommé chez MREX, qui est un collège immobilier que j'apprécie beaucoup, qui est c'est un certificat en développement de terrain et construction neuve. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est acheter des terrains, soit faire des demandes de changement de zonage aux villes ou des terrains prêts à construire déjà, puis lever mes projets, faire des ficeler financièrement de façon sharp, puis de sortir, de réussir à construire ces projets-là. Puis ce qui est cool avec l'immobilier de construction neuve, c'est que tu mets tout ton argent, toutes tes billes, puis en un an, une fois qu'il est construit ton projet, tu es capable d'aller retirer ces billes-là pour le réinjecter dans une autre construction. Donc, l'effet de levier qu'on parle en immobilier beaucoup, ben, c'est direct là. Donc, en un an, tu réussis à récupérer tout ton argent que tu as mis, tu as un bâtiment neuf, puis tu en construis un deuxième, un troisième, un quatrième, etc.
OK, donc c'est quand même exponentiel comme, comme retour en argent.
Oui, définitivement.
Donc ça, ce serait ton projet futur immobilier. Bah, c'est beau et ça a l'air de complètement rentrer dans tes valeurs de propriétaire éthique.
Bah, j'essaie. Ouais. C'est sûr que ça reste. Il faut faire vraiment attention, surtout dans les dernières années. En tant que propriétaire, j'ai plein de monde avec qui, justement, dans ces collèges-là immobiliers que je parlais, qui ont suivi ces cours-là. Ils enseignent des bonnes méthodes de travail dans ces collèges immobiliers-là, mais ils prennent la réputation des gens qui suivent pas ces valeurs-là, tu sais.
OK, ouais.
Je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais...
Que les gens qui t'apprennent ils suivent pas toujours their own advice.
Ben, c'est sûr, les coachs ou les professeurs, ils donnent jamais de mauvaises indications ou de façons de procéder qui sont pas éthiques, mais t'as plein d'étudiants qui vont quand même faire des choses pas éthiques, fait que ça l'affecte tout le monde qui ont suivi ces formations-là.
Donc, il y a aussi un problème d'éducation des nouveaux propriétaires immobiliers qui...
Ils savent que c'est pas correct ce qu'ils font, mais ils font pareil. Puis aussi, il y a un problème d'éducation du locataire au Québec.
Ah oui?
Ouais.
Bah, parle-nous de ça.
Ouais, moi, je trouve, là, parce qu'au Québec, on a un des régimes les plus pro-locataires dans l'Amérique du Nord, puis le monde ne connaît pas leurs droits.
Ouais.
Justement, c'est drôle. On en parlait rapidement tantôt qu'on avait un ami qui voulait faire de la sous-location puis qui pensait qu'il avait pas le droit. Mais il a le droit, tu sais. C'est pas son mot. C'est pas le propriétaire qui va choisir s'il va faire une sous-location. Il a le droit, sauf pour des motifs sérieux. Même chose pour les augmentations de loyer. Allez lire sur le tribunal administratif du logement ou appelez. Ils vont vous répondre puis... Connaissez vos droits parce qu'on a toutes sortes de droits au Québec quand on est locataire. Le propriétaire a le gros bout du bâton jusqu'à temps qu'il signe le bail. Une fois que le bail est signé, c'est le locataire qui a le gros bout du bâton.
Ah ben, ça, tous les locataires seraient contents d'entendre ça, mais ouais, vraiment, donc faut savoir nos droits, là, c'est étant là.
Il y en a beaucoup des droits. Alors, si vous avez du temps, renseignez-vous là-dessus.
Ben, je suis complètement d'accord. Moi, c'est sûr que je vais le faire. J'ai un énoncé que j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, parce qu'on voit souvent ces publicités, moi je les vois partout dans le métro, que le logement social est la solution. Est-ce que tu es d'accord?
J'ai vu souvent ces...
Ouais, on les voit partout.
Je suis d'accord en partie, dans le sens que c'est une partie de la solution. Effectivement, il faut du logement social, c'est nécessaire. Mais ils ne construiront pas 800 000 logements sociaux d'ici 2030. Là.
Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est jamais. Impossible que ça résoudrait ce...
jamais.
Un problème de cette ampleur.
Je pense que la seule façon de résoudre la crise du logement, c'est que les propriétaires, les promoteurs immobiliers, le gouvernement puis les organismes de défense de droits des locataires travaillent et de logements sociaux travaillent tous ensemble main dans la main. En ce moment-là, on se pointe du doigt. C'est propriétaire ouais. contre locataire ou c'est propriétaire contre développeur immobilier contre les villes. Faut que tout le monde travaille ensemble parce que oui, c'est une clé de la, c'est une des clés de résolution du problème, le logement social, mais ce n'est pas la clé. Tant qu'on ne résout pas le problème d'offre contre la demande, il va toujours y avoir un problème.
Ouais. C'est sûr que le logement social peut aider, mais. Dans une ville comme Montréal.
Hey, 800 000 logements,
tu peux t'imaginer? 800 000 logements.
De plus.
Inimaginable.
C'est inimaginable.
Autant de gens là-dedans.
C'est ouais. fou. Puis on voit une tendance, c'est un de mes profs qui me disait ça, une tendance au Québec des promoteurs qui est de réduire la taille des logements. C'est une des tendances. Donc on va probablement voir de plus en plus.
C'est juste... l'inverse de ce qu'on propose avec le logement social. Il faut des emplacements plus grands.
Ouais, mais dans le sens, mettons, sur un building qu'on aurait construit un 16 logements, on va rentrer 20 maintenant. T'sais.
OK, wow.
C'est une tendance un peu plus, comme on peut voir un peu plus en Asie ou dans les centres-villes européens.
Les gens empilés les uns sur les autres.
C'est ça. Ou, déjà, on le voit un peu, je sais pas si tu t'es promené à la place des spectacles, il y a deux tours qui ont poussé, là, que ça s'appelle Maestria. Il y a une passerelle en plein milieu, c'est des condos de luxe. Bref, c'est un énorme projet immobilier. Je pense qu'il y a 2000 unités là-dedans, ou 1000 unités. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment des petites unités. Puis ça va être une tendance qu'on va voir au Québec aussi, parce que avec les coûts de matériaux qui ont grimpé, puis les coûts des terrains qui ont grimpé, ben pour réussir à construire, il va falloir construire plus petit.
Ouais. Bon, y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons d'avoir peur, mais aussi beaucoup d'espoir à avoir. Moi, j'ai de l'espoir.
Mm.
Je pense que si on continue d'avoir des proprios éthiques et que, comme tu dis, que les propriétaires, locataires, développeurs travaillent tous main dans la main, on peut...
Vraiment.
Il y a un avenir, il y a une possibilité.
C'est ça la solution.
Ouais, on la connaît, il faut juste prendre le premier pas.
Ouais, il faut arrêter tout le monde se pointer du doigt puis essayer de trouver des solutions parce que ça n'a pas d'allure. Là, sinon.
Complètement d'accord.
Puis les villes aussi, il y a certaines villes qui veulent préserver leur urbanisme, puis je comprends ça, mais il faut aussi permettre le développement de nouveaux logements parce que c'est un classique. Oui, il y a un problème, mais je le veux pas dans ma cour. Là, tu sais. Il faut permettre le développement, la construction. Il y a beaucoup de développeurs qui se battent avec des villes sans arrêt pour avoir leur permis puis avoir la possibilité de construire ces logements. Il y a plein de monde qui veulent construire mais qui sont pas capables à cause des problèmes législatifs. Je suis d'accord qu'il faut garder vraiment un entre-deux dans le sens qu'il faut pas construire n'importe comment puis partout, mais il y a quand même une façon d'accélérer les choses.
Ben, c'est sûr. Ben, OK, pour retourner à toi et ton entreprise, donc est-ce que ce projet d'immobilier, cette entreprise d'immobilier, est-ce que c'est uniquement for the sake of doing it ou est-ce que c'est pour financer un autre projet ou parle-moi de ton raisonnement, là, de tes raisons.
Ben, moi, je le vois comme un véhicule d'investissement incroyable, premièrement. Deuxièmement, ben, c'est clair que j'adore ça. Je passe des heures à lire là-dessus par semaine parce que j'aime ça. T'sais, c'est par passion. Puis aussi, effectivement, c'est une sécurité financière qui me permettrait de pouvoir débuter d'autres projets. Tu sais, j'ai des idées, justement, de projets que je suis en train de regarder à développer. Puis avec l'argent que je vais avoir fait avec ces investissements-là, ben effectivement, ça va me permettre de pouvoir pousser un petit peu plus ces idées-là. C'est un peu ma façon de penser, mais c'est vraiment par passion en général, là.
OK, bah tu le fais parce que tu l'aimes et ça te plaît. Et c'est lucratif. Donc
oui, c'est ça.
Ça coche toutes les cases.
Exactement. Puis c'est le fun de travailler avec tout du monde qui... Parce que l'immobilier, s'il y a bien un domaine où est-ce qu'il y a des problèmes après problème après problème, ben c'est ça. Fait que c'est le fun de brainstorm. Moi, j'aime ça faire en partenariat. Mes premiers blocs, je les ai achetés tout seul, mais depuis, j'ai toujours acheté en partenariat. Puis c'est le fun de juste pouvoir s'asseoir puis on brainstorm. On essaie de trouver des idées. des façons d'aller chercher du financement. C'est juste une belle façon d'utiliser ce qu'on a appris à l'école de résolution de problèmes, et je l'applique directement dans ma vie de tous les jours avec cette entreprise-là.
Complètement. Ben on peut faire complètement un retour avec la valeur de ce diplôme d'ingénieur et des connaissances que tu as.
Ah oui.
Ça s'applique à tout, même l'immobilier qui n'a complètement rien à voir. Comme le lavage de vitres,
avec
l'ingénierie.
Non, c'est vraiment... c'est ça. À l'école, on apprend à apprendre, puis on apprend à trouver des solutions. Tu sais, ce qu'on apprend dans nos cours, le pourcentage que tu veux utiliser dans ton stage ou dans ta job est très faible. C'est pas ça les connaissances que tu appliques, c'est les connaissances de travail, l'éthique de travail, la recherche de solutions, c'est ça que tu appliques au fond dans tes stages, là.
On m'a dit que le diplôme d'ingénieur, c'est pas pour les connaissances techniques que tu fais, c'est pour la personne que tu dois devenir pour avoir ton bac.
Ouais, vraiment.
Complètement.
Un petit peu de connaissances techniques, mais très peu.
Ouais.
T'as totalement raison.
Travailler fort à l'école, travailler fort et être discipliné pour se trouver un stage, pour après être placé dans une entreprise, tout ça, c'est du travail fort. C'est du travail et de la discipline qui te crée, qui te réinvente en une personne qui peut résoudre des problèmes, qui a de la valeur personnelle. Par exemple, ça, tu peux l'appliquer dans l'immobilier, tu peux l'appliquer dans l'entrepreneuriat, tu peux travailler pour toi-même, tu peux vraiment faire ce que tu veux.
Totalement.
Si tu fais tout ce travail discipliné.
Totalement. Puis je veux rien enlever aux autres diplômes des autres programmes universitaires, mais en ayant fait génie, tu le vois là, en te promenant dans les aires communes où est-ce que tu vois tout le monde qui travaille très fort ou dans tous tes cours, le nombre de temps qu'on passe pour l'école. Quand je compare à des amis qui sont dans d'autres programmes, en génie, on est du monde dévoué pareil.
Ouais. Donc, c'est sûr que ça fait des bons entrepreneurs.
Directement.
Des bons entrepreneurs.
Exactement. C'est le même genre de qualité.
Ouais. Bah, complètement d'accord. Et est-ce que tu as d'autres projets, du coup, dans le futur? Est-ce que tu veux continuer à te lancer en entrepreneuriat? Est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que ton futur, c'est l'immobilier et tu veux faire ça de ta vie?
C'est une excellente question. On dirait que j'ai comme pas choisi un peu ce que je voulais faire. Je finis mon bac dans un an. Puis après, je vais être un peu dans un no man's land dans le sens que j'aurais plus l'école qui va m'occuper à temps plein. J'ai l'avenir immobilier qui est assez intéressant, mais est-ce que je vais faire ça à temps plein? Peut-être qu'au début, je vais faire ça, mais je pense que j'aimerais ça investir dans des startups ou justement les connaissances entrepreneuriales que j'ai acquises dans les dernières années, de peut-être pouvoir l'appliquer à une nouvelle startup dans un projet plus technologique, si tu veux, un peu plus relié à mon bac. T'sais.
Ok, tu le trouverais où ce startup-là? Est-ce que tu as des idées encore? Est-ce que
Moi, j'ai une ou deux idées que j'aimerais peut-être me lancer. Sinon, dans les événements réseautage, dans les incubateurs d'entreprise, je pense qu'ils cherchent souvent, tu as du monde extra-technique qui ont une idée de produit qui est vraiment incroyable, mais ils n'ont pas nécessairement les capacités de développement à faire puis de vente que moi, je pense que j'ai pas mal bien acquises au cours des dernières années.
Donc, tu offrerais ce lien entre l'ingénierie, les connaissances techniques et les connaissances entrepreneuriales?
Ça, c'est une option que j'envisage. Sinon, à partir de... J'ai une idée de compagnie publicitaire que je suis en train de travailler à peut-être lancer l'année prochaine. Tu sais, j'ai plusieurs options, là, puis je veux aussi profiter de la vie à travers de tout ça. Là. J'adore voyager, c'est aussi des plans pour les prochaines années.
Ben, j'ai l'impression que tu as bien fait ça pour t'ouvrir tous ces horizons-là. Là. Je pense pas que n'importe qui peut s'inquiéter pour ton futur. ça a l'air de bien aller.
Ouais, ça va bien pour l'instant.
Ben, l'épisode approche à sa fin. Alors, j'aimerais te remercier. J'aimerais te demander si les gens veulent te joindre, si les auditeurs veulent te joindre ou parler de tes compagnies ou demander des tips and tricks. Comment est-ce qu'ils peuvent te joindre?
Ah, ben, ils peuvent m'envoyer un texto, m'écrire sur mes réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, je pourrais te donner ça. Puis, on pourra le mettre en dessous du podcast, j'imagine.
Parfait, ben, je mettrai tes réseaux
sur LinkedIn, toujours.
Sur LinkedIn aussi, voilà. Alors, voilà, c'était Alexis Gasque et Philippe Meuser. Philippe, merci beaucoup.
Ben, merci à toi, c'était vraiment une belle entrevue.
Ben, ça fait plaisir. Sur Startcast, une initiative de polyentrepreneuriat. Je vous dis à la prochaine et bonne fin de journée.